Radio Okapi.
Le journal présenté par Noël Alouzi Toukabambi.
Plusieurs ménages de Kinshasa se disent essoufflés. Ils n'arrivent plus à suivre le rythme de la dépréciation du franc congolais et l'instabilité du taux d'échange. Ils ont de plus en plus du mal à nouer les deux bouts du mois. Et les femmes sans occupation rémunérée, travailleuses ou encore vendeuses s'en plaignent. Dans ce journal, vous les suivrez plaider pour une amélioration de la situation socio-économique au pays. La FRDC affirme avoir repoussé une avancée des rebelles sur la cité de Sake après d'intenses combats durant toute la journée d'hier entre les forces loyalistes soutenues par la force de la SADC et le 1-23 appuyé par l'armée rwandaise. L'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles, précise le porte-parole de l'armée congolaise. Kwasi Yeboah, chercheur senior de l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria en Afrique du Sud, est l'invité de ce journal. L'Institut d'études de sécurité est en pleine vulgarisation à Kinshasa des résultats de l'enquête sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Bonjour à tous. L'impact de la dépréciation du franc congolais et l'instabilité du taux de change frappent de plein fouet la plupart des ménages à Kinshasa. Plusieurs affirment éprouver d'énormes difficultés à nouer les deux bouts du mois. Et les femmes, qu'elles soient mères au foyer ou encore vendeuses, s'en plaignent. Elles plaident pour une amélioration de la situation. Étienne Lissumbu a rencontré quelques femmes kinoises. Suivez son reportage.
Le coût de la vie est de plus en plus élevé. La phrase est dans la bouche de plusieurs mères de famille. Elles dénoncent le fait que presque tout dans leur vie tourne autour du dollar américain.
Lorsque tu demandes au marchand le prix des feuilles de la patate douce, elle te répond que cela revient à 2000 francs. Si tu t'étonnes, elle te répond que le dollar est en hausse.
Même les femmes qui s'adonnent au petit commerce disent ne pas s'en sortir. Ici, on dénonce l'instabilité de la monnaie locale et du taux d'échange, ce qui les appauvrit davantage.
La hausse du dollar nous cause énormément de problèmes. Le sac de braise qui coûtait 35 à 40 000 francs, aujourd'hui c'est à 70 000 francs. L'État doit nous trouver une solution.
Avec le beignet, au début on achetait la farine à 45 000 francs, mais aujourd'hui il n'y a plus moyen. Nous devons retourner comme avant.
Du côté des fonctionnaires de l'État, la situation n'est pas brillante non plus. Ces tenanciers de bureaux d'échange témoignent.
On reçoit des plaintes de fonctionnaires de l'État qui viennent s'approvisionner pour payer les frais scolaires de leurs enfants, d'autres pour payer les loyers qui sont exigés en devise. Ils se plaignent, ils ont acheté les dollars, les mois passés à un taux X, les mois qui suivent, les devises changent de taux.
L'amélioration du social de la population, c'est justement un défi qui attend le gouvernement souminois.
Toujours en économie, l'inspection générale des finances met fin à ses missions d'encadrement dans les entreprises publiques, mieux connues sous l'appellation de patrouille financière. Cette décision est contenue dans un communiqué dont copie est parvenue mercredi à Radio Okapi. D'après l'IGF, des recommandations ont été formulées à l'endroit des gestionnaires de toutes les entreprises où les dites missions se sont effectuées. Plus de détails avec Cynthia Bachizi Nabizana.
La patrouille financière de l'IGF est constituée de différents inspecteurs affectés dans une quarantaine d'entreprises, mais aussi en province. Toute opération de sortie de fonds dans ces entreprises était soumise à la validation de ces inspecteurs. Ces derniers devaient aussi s'assurer de la transparence dans la chaîne des dépenses, mais aussi du respect des procédures en matière de passation des marchés. Cette mission a sauvé la trésorerie publique des dépenses de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains selon l'IGF. Un succès nuancé par Valérie Mandianga, directeur général du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL.
Toutes ces missions n'ont produit aucun résultat parce que toutes les pratiques décriées ont continué, notamment les recettes mobilisées par les entreprises publiques ont continué à être détournées en présence de l'inspection générale des finances. Mais nous pensons que pour l'instant, les concours de la Cour des comptes ferait l'affaire. Ça pourrait crédibiliser davantage les audits. Vous savez que certains inspecteurs de l'IGF ont été également cités dans plusieurs mauvaises pratiques.
Dans l'entretemps, l'IGF va procéder auprès des banques commerciales au monitoring de toutes les opérations financières de ces entreprises publiques.
Parlons finance encore avec le détournement des recettes du Fonds national d'entretien routier en Ituri. Près de 12 millions de dollars américains sont volés presque chaque mois dans plusieurs postes frontaliers, constaté mardi par une délégation mixte FONER-DGDA et une structure de lutte contre la corruption APLC venue de Kinshasa qui a saisi le cabinet du gouverneur de province. Au cours d'un point de presse à Bounia, le chef de cette délégation révèle que son service a constaté un manque à gagner d'environ 81 millions de dollars depuis 2018 des recettes réalisées en Ituri. Le point avec Ézéchiel Mouzalia.
Une baisse sensible des fonds perçus par les Fonds nationaux d'entretien routier FONER est observée au niveau national pour les comptes de la province de l'Ituri depuis 2018. C'est ce qu'a indiqué mardi le directeur de ses services ainsi que des agents de la DGDA qui font des investigations sur la traçabilité de ces fonds. Selon le directeur des cabinets de la direction générale du FONER, le coulage d'au moins 12 millions de dollars chaque mois s'observe depuis le début de cette année aux différents postes de contrôle dont Kengezi Baz et Mahagi, Martin Malengue.
Il y a des grandes quantités de produits pétroliers qui entrent dans cette province. Le FONER devait avoir beaucoup d'argent, mais ce qui entre, c'est insignifiant. De 2018 à ce jour, le FONER n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars.
Le gouverneur fustige qu'un groupe d'individus s'arroge le droit de piller les ressources de l'État dans cette province confrontée à d'énormes défis qui nécessitent des moyens conséquents pour son développement. Le général Johnny Luboyankashama.
Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. Avec tous ces millions, vous allez en faire quoi ? Vous faites souffrir toute une population.
La coordination de la société civile qui avait alerté la hiérarchie des FONER sur cette présomption des détournements demande au gouverneur de saisir la justice militaire en vue d'identifier et de poursuivre les auteurs. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Kasaï oriental, la perception des frais d'enregistrement des certificats oppose depuis quelques mois la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGCOR, et la Direction générale des recettes administratives domaniales et de participation, DGRAD. Conséquence, plusieurs requérants qui ont déjà payé les frais d'enregistrement des certificats au niveau des titres immobiliers attendent d'entrer en possession de cet imprimé de valeur. Explication avec Esther Ndalafina.
Au service des titres immobiliers, plusieurs dossiers traînent sur la table du chef de division. Pendant ce temps, certains requérants qui avaient payé les frais d'enregistrement des certificats depuis près de 4 mois continuent à faire sans succès des navettes pour retirer les documents. L'un d'eux explique.
J'ai acheté une parcelle. Je suis parti chez le conservateur pour obtenir un certificat d'enregistrement pour ma parcelle. Ils m'ont demandé 600 dollars depuis le 22 avril. Et puis après, ils m'ont dit qu'il y avait un blocage.
Le conservateur des titres immobiliers dit avoir été instruit verbalement par la DGRAD de lui verser ses frais avant le retrait des carnets et non à la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, DGRCAOR. Contacté, le directeur provincial de la DGRCAOR affirme que cet acte revient à la province.
Ce n'est pas un acte de la DGRAD. Et même si aujourd'hui on estime que ça doit revenir à la DGRAD, c'est le gouvernement central qui doit nous saisir pour nous informer. Ce n'est pas la DGRAD elle-même. Elle se réveille un bon matin, elle estime que c'est un acte qui doit revenir chez elle. Non.
Le directeur provincial de la DGRAD promet de décanter cette situation la semaine prochaine après la réunion avec les services concernés. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Dans la province voisine, le Kasaï central, la ville de Kananga n'est pas approvisionnée en maïs depuis quelques mois par les wagons de la SNCC. Ce poids est porté par les transporteurs à vélo appelés communément Bayanda. Ramener le maïs dans la ville est devenu un véritable parcours de combattants, disent-ils. François Kadima les a rencontrés et voici son reportage.
José Kassonga est un transporteur à vélo qui fait toutes les directions partant de Kananga pour amener différents produits alimentaires sur la ville. Comme c'est la période de maïs et face à la difficulté pour les wagons de la SNCC d'amener cette denrée à Kananga, il s'est engagé à aller jusqu'à Kambulu, 25 km de la ville, pour chercher ce produit, le ramener à Kananga et revendre, comme il explique.
Je peux transporter des sacs, l'un attaché à gauche, l'autre à droite. Quand je ramène, je trouve 60 mesurettes. Nous faisons 4 jours sur la route de Kambulu pour arriver ici.
Sur une route sablonnée, les Bayanda rencontrent beaucoup de difficultés. Mouteba Kayembe était notre transporteur qui nous parle du calvaire sur la route avec différentes barrières érigées.
Nous souffrons beaucoup sur la route, surtout avec ceux qui font les salongos. Ils mettent les barrières et par vélo. Nous devons payer 1500 ou 2000 francs congolais. Tu peux te rendre compte qu'en une journée, tu as dépensé 5 ou 7000 francs congolais pour les barrières.
En dehors de barrières, ces Bayanda veulent aussi
que l'État arrange simplement la route.
Signalons que le maïs ramené à Kananga par les transporteurs à vélo vient de l'interland de la ville. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
L'armée congolaise affirme avoir stoppé une avancée des rebelles sur la cité de Sake au nord Kivu. Toute la journée d'hier jeudi, d'intenses combats ont en effet opposé les FRDC soutenus par la force de la SADC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise autour de cette cité du territoire de Masisi. Selon le porte-parole de l'armée, l'opération vise à mettre la population à l'abri de ces menaces rebelles. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike continue à plaider pour une collaboration sans faille entre l'armée et la population. Ces propos ont été recueillis par Bernard Danyangi.
Tôt le matin de ce jeudi 30 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo répliquent efficacement aux provocations de l'armée rwandaise qui tire à l'aveuglette dans la cité de Sake et ses environs. Il est question pour les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires de mettre notre population à l'abri des tirs de ces terroristes. À ce stade, le mouvement ennemi a été stoppé net. Le reste des actions menées à ce jour vous seront communiquées dans les heures qui suivent. Il est cependant demandé à notre population d'accompagner son armée et ses partenaires et de ne pas se fier aux rumeurs que propage l'ennemi dans les réseaux sociaux.
Rappelons que selon certaines sources, des tirs rebelles en représailles ont atteint des cibles militaires et civiles dans la matinée d'hier jeudi à Sake. Un convoi de la force de la SADC a même été touché et quelques civils auraient aussi été blessés. La journée des casques bleus des Nations Unies est célébrée le 29 mai. Pour l'occasion, Radio Kapi continue à vous faire découvrir le travail de ces hommes et de ces femmes qui, au péril de leur vie, travaillent pour l'avènement d'un monde sans guerre. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le travail de Halima Youssouf Abdallah. Policière originaire de Djibouti, elle est chargée des questions du genre et de protection de l'enfant au sein de la MONUSCO à Beni au nord Kivu. Halima Youssouf Abdallah exprime sa fierté de contribuer au bien-être des femmes et des enfants touchés par l'activisme de groupes armés dans cette région. Elle le dit au micro de Sadiq Aboubakar.
Vraiment béni au début, ça me faisait trop de stress, ça me faisait un peu peur, comme quoi c'était très difficile, c'était un lieu qui était vraiment dangereux et tout, mais non, au final j'ai vu que béni a besoin de nous, les volontaires à venir pour aider les enfants ainsi que les femmes, parce que c'est eux aujourd'hui qui souffrent beaucoup plus, qui a besoin de notre appui, l'effort, les conseils, leur tenir la main. Dans les cas de protection de l'enfant, souvent on travaille pour sensibiliser. On fait beaucoup déjà avec la PNC et au sein des civils aussi, des fois on se déplace pour les sensibiliser, pour leur donner des aides, pour l'aider à faire confiance à eux-mêmes pour être forts. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les enfants ainsi que les femmes restent au même niveau de souffrance. Cher casque bleu, je tiens à vous dire que je suis si fière d'être votre collègue déjà et j'ai une énorme admiration pour le travail que vous développez ici au Congo, précisément à Beni.
Demain samedi 1er juin, ils vont totaliser 14 ans depuis qu'ils sont morts assassinés. Floribert Chebeya, 14 ans après votre assassinat, tous unis pour honorer votre mémoire et continuer la défense des droits humains. C'est le thème choisi par la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, les familles biologiques de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, ainsi que les ONG de la société civile et la CNDH pour commémorer le 14e anniversaire d'assassinat de ces deux défenseurs de droits de l'homme qu'elles considèrent comme martyrs de la démocratie en RDC. D'importantes activités sont prévues à cet effet. La famille de l'ancien directeur exécutif de la VSV venait d'exhumer le corps de Chebeya pour l'enterrer dans son mausolée construit à côté des cellules de feu Étienne Tshisekedi dans la commune de Lancélé. À Kinshasa, plusieurs femmes et jeunes filles habitant le camp Lufungula ont été sensibilisées sur l'hygiène menstruelle et le planning familial. Cette activité qui a eu lieu mercredi était organisée par l'ONG Leadership des femmes de médias en collaboration avec DKT International. C'est en marge de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai. Reportage Miradim Fouingi et Mnoza Yamasiki.
L'ONG Leadership des femmes des médias a voulu de la sorte briser le tabou autour de la planification familiale et de la santé sexuelle. Pour elle, apporter la bonne information aux femmes et aux jeunes filles dans ce domaine contribue à leur bien-être. Grace Chako, responsable de cette ONG, revient sur les objectifs et le pourquoi de cette initiative.
Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer les jeunes filles et les femmes des policiers afin de sensibiliser autour de l'hygiène menstruelle, mais également la santé reproductive. Et nous sommes rendus compte que dans les camps, il y a quand même une manière de vivre assez précaire. Il y a beaucoup de jeunes filles mères, beaucoup aussi des femmes qui mettent au monde de manière accélérée sans avoir la bonne information.
Docteur Rodrigue Mandeke, l'un des intervenants, explique les conséquences du manque d'hygiène menstruelle.
Pendant les cycles menstruels, la femme, elle est beaucoup plus exposée à différentes infections. Chez la femme, on parle des infections urogénitales. Ces infections-là vont compromettre beaucoup de choses dans son organisme. Puis plus loin, il y aura même la stérilité.
Safi Mapasa, une des invitées, l'exprime sa reconnaissance.
Nous les remercions pour cette connaissance des plus qu'ils nous ont apportée. Il y a des sujets où nous pensons avoir la maîtrise, alors que non. Pour moi, la rencontre a été très bénéfique.
Près de 50 jeunes filles et femmes ont pris part à cette activité.
Actualité internationale.
Donald Trump a été reconnu hier coupable à son procès pénal à New York. Une première pour un ex-président américain qui se dit innocent et entend retourner à la Maison-Blanche. Cette peine pour les paiements dissimulés à une star de film X sera prononcée le 11 juillet par le juge du tribunal de Manhattan, 4 jours avant la convention du Parti républicain qui doit investir Donald Trump comme candidat des conservateurs américains. En attendant, il reste libre. L'un de ses avocats a annoncé sur CNN un appel dès que possible, ou plutôt après le 11 juillet.
L'invité.
Kwasi Yeboua, chercheur senior de l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria en Afrique du Sud, est l'invité de ce journal. L'Institut d'études de sécurité est en pleine vulgarisation ici à Kinshasa des résultats de l'enquête réalisée sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Parmi les recommandations figurent l'amélioration de la gouvernance, la diversification de l'économie et le développement du secteur agricole. Kwasi Yeboua s'entretient avec Tati Mapoko.
Docteur Kwasi Yeboua, bonjour.
Bonjour.
Vous avez mené une étude sur les perspectives de développement de la RDC à l'horizon 2043. Qu'est-ce qui a motivé cette enquête, docteur?
L'Institut d'études de sécurité, comme vous l'avez mentionné, au début travaillait sur les questions de sécurité, de paix et de stabilité en Afrique. Mais avec le temps, on a constaté que le problème majeur de l'insécurité et de l'instabilité en Afrique, c'est le problème du développement. Et tant qu'il n'y a pas de développement inclusif en Afrique, il sera difficile d'avoir une paix durable dans notre continent. Et donc, on s'est concentré sur les questions du développement.
D'accord.
Et donc, ce qu'on fait, on travaille sur les perspectives de développement à long terme des 54 pays africains et pour aider à la prise de décisions pour essayer d'avancer le développement dans notre continent. Et c'est ce qui a motivé cette étude sur le cas du Congo.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les grandes thématiques qui ont fait l'objet de cette enquête?
Cette étude a abordé tous les secteurs liés au développement, depuis la démographie, l'urbanisation, la gouvernance, l'agriculture, les infrastructures, le commerce international et tout. On a abordé les ressources naturelles du Congo.
Voilà. Commençons par la démographie. Quel est le constat qui a été dégagé?
Le constat dégagé, c'est que la population congolaise croît rapidement. Et actuellement, le Congo a la 4e population la plus large en Afrique, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Cette population d'ici a actuellement estimé à 99 millions pourrait atteindre 164 millions en 2043 au cours de ces 20 prochaines années. Mais la population active constitue autour de 51% de la population. Donc cette population active pourrait être un atout pour le Congo si elle est bien formée et intégrée de façon productive dans l'économie.
Et dans les volets éducation et santé?
Au niveau de l'éducation, on a constaté que le Congo a fait des progrès au cours de ces 15 dernières années, les indicateurs d'éducation tels que le taux de scolarisation au niveau du primaire ou au niveau du secondaire ont vraiment progressé et le Congo est même au même niveau que les pays à faible revenu en Afrique puisque le Congo est un pays à faible revenu. Mais le défi majeur du système éducatif congolais, c'est le taux d'achèvement qui est faible. Beaucoup d'enfants rentrent à l'école primaire ne très peu termine. Et aussi la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation, est vraiment le niveau de la qualité est faible. Et ce qui fait qu'il y a une adéquation entre ce que le marché de l'emploi demande et les qualités ou bien ceux qui sont des écoles. Et la conséquence, c'est le chômage et les gens qui se débrouillent dans le secteur informel.
Et au niveau des ouvrages d'intérêt public, quel est le contrat qui a été dégagé? Pont, route, rail?
Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais aborder aussi le système de santé. Et comme je le dis, les Congolais ont très peu accès aux soins de santé de base parce que le secteur est sous-financé, les coûts des soins élevés et le niveau insuffisant du personnel médical qualifié. Mais des progrès ont été faits. Et par exemple, pour le taux de mortalité infantile qui est en train de baisser.
Et maternelle.
Le taux de mortalité maternelle aussi en train de baisser. Et ça va baisser encore avec la gratuité des femmes qui vont accoucher maintenant. Et voilà, donc c'est ça. Donc,
évoquons également maintenant, parce que là je vois sous mes yeux les volets gouvernance qui a également fait l'objet de l'enquête.
Gouvernance aussi a été évoquée dans l'étude. Et comme on le dit dans l'étude, les indicateurs de développement de la RDC sont faibles. Quand vous regardez l'indice Mo Ibrahim, qui classe les pays en fonction de la qualité de leur gouvernance. La RDC est classée 49e sur 54 pays africains, avec une moyenne de 32 sur 100, ce qui est largement en dessous de la moyenne de l'Afrique, qui est de 48 sur 100. Et même en Afrique centrale, la RDC est en dessous de la moyenne. Et donc, il faut vraiment améliorer la gouvernance. La corruption est endémique et qui affecte la mobilisation des recettes intérieures dans le pays, qui réduit la capacité de l'État à investir dans les infrastructures socio-économiques de base pour améliorer les conditions de vie de la population.
Docteur Kwasi, une idée sur le gant de résolution ou les propositions, les sujets que vous avancez dans le cadre de l'enquête qui a été menée.
Pour les trois secteurs clés qui pourront vraiment avoir un impact considérable sur le niveau de vie des Congolais, c'est l'amélioration de la gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et le développement du secteur agricole.
Docteur Kwasi Yeboua, nous rappelons que vous êtes économiste et chercheur senior à l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria, en Afrique du Sud. Merci d'avoir été avec nous.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.